France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et nous voici ce matin en direct du Salon de l'Agriculture, où j'ai la joie de recevoir deux amoureux de la campagne et du terroir que nous évoquerons en musique. À mes côtés, Pierre Bonte, le meilleur connaisseur des villages français depuis Bonjour Monsieur le Maire et le petit rapporteur, et Jean-François Kahn, pour qui le credo du paysan et les colchiques dans les prés n'ont aucun secret. En seconde partie d'émission, j'accueillerai l'historien de l'agriculture Denis Lefebvre. Tous sont venus avec leurs nouveaux livres et leurs meilleurs disques, mais puisque nous sommes ici dans la plus grande ferme de France, commençons par chanter les dindons et les moutons.
Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je parais fille.
Lorsque tu me parles, voilà que dans mon petit cœur, ça s'embrouille.
Moi, quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bobette qui me chatouille.
J'aime bien mes dindons.
J'aime bien mes moutons.
Quand ils font leur
doux, quand chacun de toi est
mais j'aime mieux que mes dindons,
j'aime mieux que mes moutons.
Quand ils font leur doux,
quand chacun de toi est
le fameux duo des dindons et des moutons extrait de la mascotte de Drouin. On peut applaudir les moutons, parce que les moutons, ils sont juste derrière nous, des merveilleux moutons de la Mayenne, qui sont là un tout petit peu cachés par le public nombreux qui est venu sur le stand de Radio France pour cette émission Étonnez-moi Benoît, en direct du Salon de l'Agriculture, avec mes invités Pierre Bonde, Jean-François Kahn et Denis Lefebvre, et puis aussi un merveilleux duo de musiciens, David Venitucci à l'accordéon et Annick Cizaruc, qui va chanter pour nous tout de suite Joli môme.
T'es toute nue sous ton poulet à la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'or et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la fermer, c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, quand violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i, le chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'es qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'es qu'une rime au bonheur, faut que ça rime, que ça pleure, joli môme. T'es qu'une une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli mot. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli mot. T'as qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'as qu'une femme repassée quand son âme est froissée, joli mot. T'as qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'as qu'une joie en elle et viens, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. Joli môme, joli môme, joli môme.
David Venitucci, Annick Cizarucq dans cette chanson que vous connaissez tous évidemment de Léo Ferré, chanson plutôt urbaine d'ailleurs, mais nous sommes ici dans ce lieu où la ville et la campagne se rencontrent puisque nous sommes ce matin au salon de l'agriculture en compagnie de mes invités, Étonnez-moi Benoît, donc en direct du salon de l'agriculture à la porte de Versailles.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et j'ai le grand bonheur d'accueillir pour la première fois dans cette émission un invité qui connaît la campagne mieux que personne. Il vient d'ailleurs de lui consacrer un livre, je dirais à la fois optimiste et pessimiste, parce que ça s'appelle quand même « Ces villages qu'on assassine ». J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Monsieur Pierre Bonte.
Bonjour, Monsieur le maire. Une émission réalisée grâce à Butagaz. Propagaz.
Butagaz et Propagaz, c'est de la joie, sous votre toit, c'est de la joie.
Bonjour, monsieur le maire.
Ici Pierre Bonte. 1961 marquera sans aucun doute une date importante dans l'histoire de la petite commune d'Oule en Oisans. Pour la première fois, une voiture automobile a pénétré dans le village.
Bonjour, 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 monsieur le maire. Bonjour, bonjour,
chez vous, on se sent triste. C'est la fin des vacances, une autre vie. On repart à la ville, plus rien n'existe. Que de bons souvenirs, mais c'est fini. Bonjour, 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 monsieur le maire. Bonjour, bonjour.
Et bonjour, monsieur Pierre Bonte. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci d'abord d'avoir retrouvé cette chanson composée par André Verschuren.
Exactement. Vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas chez vous.
Non, je l'ai perdue. C'est André Verschuren qui avait composé cette musique en tant qu'indicatif pour mon émission Bonjour Monsieur le Maire, donc dans les années 60. Et il m'avait demandé de mettre quelques paroles là-dessus et j'avais eu beaucoup de peine d'ailleurs.
Voilà. Et puis on a retrouvé aussi quand même le générique avec Butagaz.
Ah,
ouais. C'est l'époque où les marques sponsorisaient, comme on dit, les émissions. Hein.
Absolument, oui. C'était la radio publicitaire et avec des indicatifs ritournelles, comme
oui,
on disait,
c'est-à-dire
qu'on chantait en même temps pour faire la promotion du produit.
Alors bonjour monsieur le maire, ben voilà, toute une génération l'a connu et puis une autre génération a connu le petit rapporteur qui a duré aussi de nombreuses années. Hein.
Pas si longtemps, non. Bonjour monsieur le maire, 15 ans, mais le petit rapporteur, 1 an et demi seulement. Et la lorgnette qui a suivi, 1 an et demi également. Donc, on a été 3 ans simplement à l'antenne avec Jacques Martin.
Ah bon, j'ai l'impression que c'est toute mon enfance,
ouais,
vous voyez.
Ouais,
ça m'a beaucoup marqué. Pierre Bonte, évidemment, votre déambulation amicale, amoureuse à travers la France, à travers les villages de France, auquel vous venez de consacrer, je le disais, un livre intitulé « Ces villages qu'on assassine », que vous avez coécrit avec Céline Blanpin. Alors, cette France que vous avez traversée pour nous dans les années 60, c'est une France totalement différente de celle d'aujourd'hui. Cette France des villages, elle a disparu ?
Non, elle n'a pas disparu, elle a explosé, bien sûr. Le monde a changé et cette France rurale a beaucoup souffert de cette transformation, de cette urbanisation à marche forcée. Mais moi, je crois qu'elle a toujours un avenir et je souffre de voir que nos élites actuellement la méprisent complètement, la considèrent comme un résidu d'une époque révolue, alors que moi, je crois qu'il y a encore plein d'espoir et d'avenir pour ces villages.
Voilà, vous expliquez d'ailleurs qu'il y a une population aussi grandissante, d'une certaine façon, dans la France anciennement rurale, où viennent s'installer aussi beaucoup d'amoureux de la campagne.
On assiste à un phénomène très curieux, c'est un retour au local, un retour à la proximité. Oui. On a besoin de se retrouver dans des petites unités pour lutter et pour résister à cette mondialisation, à cette concentration qui détruit, qui désagrège notre société.
Mais malgré tout, la petite agriculture, le terroir, les caractères, les accents, les personnages, ça, c'est un peu mort.
L'agriculture souffre énormément. Autrefois, il y avait quoi? La moitié des maires en France étaient des agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a 15%, je crois. Les villages perdent cet esprit paysan qui était apporté par les agriculteurs. Mais on a toujours à la campagne, quand même, dans ces villages, un contact avec la nature qui fait qu'on y vit autrement et qu'on y ressent les choses autrement. Je crois que quand on est au contact de la nature, même si on ne l'est pas de façon quotidienne et complète comme un paysan, ça vous donne un certain équilibre,
certes,
je crois.
Certes,
je crois que c'est un contrepoison, un antidote au virus de la ville.
Alors on va rester ensemble et avec nos autres invités aujourd'hui, Pierre Bonte, et reparler de ce livre que vous venez d'écrire, donc avec Céline Blampin.
Voilà, qui est une jeune journaliste. Elle a 32 ans,
oui.
Mais elle est sur le terrain aussi, puisqu'elle travaille pour TF1 sur la région de Rhône-Alpes. Elle a le contact quotidien, comme moi je l'avais dans les années 60, 70 et suivantes. Et elle a le même sentiment que moi, avec 55 ans de moins, elle réagit comme moi, elle ressent encore plus que moi, peut-être, ce besoin de maintenir une vie rurale animée.
Et on a évidemment choisi d'illustrer tout ça avec quelques chansons. Alors, Traîner, évidemment, Charles Traîner, on aurait pu commencer par Douce France, mais c'est quand même un petit peu trop connu. Et du coup, sur votre suggestion, j'ai réécouté une autre chanson qui est ravissante et qui est quand même un peu moins connue, c'est France Dimanche.
Ah, moi j'adore. C'est une évocation de la province, telle qu'on l'aimait.
France Dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers, France Dimanche, tu te penches sur la joie du quartier. Quel est ce charmant cortège de filles et de garçons? Quel est ce joli manège de regards polissons? Quelle est cette ville en fête? C'est celle de mes souvenirs, de mes jeunes amourettes, de mes premiers désirs. France Dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers, France Dimanche, tu te penches sur mon cœur tout entier. La sortie de la grand-messe dans la rue de l'Argenterie a tout l'air d'une kermesse devant les pâtisseries. Allons, cousine Germaine, choisir le gâteau des rois. La foule qui nous entraîne, joyeuse nous y conduira. Nous y verrons les deux filles du colonel du Barada. Elles sont vraiment très gentilles, lui est un peu gaga. France Dimanche, de province, en dépit de mon air moqueur, il fallait que tu devinsses la chanson de mon cœur. À Paris, on se promène, avenue des Champs-Élysées. Qu'ils sont loin, cousine Germaine, nos petits marronniers. Pourtant c'est le même dimanche, pourtant c'est la même joie. Pourtant sous les mêmes branches, l'odeur des fleurs d'autrefois m'invite à la même fête, et de Joinville à nos jambes, les valses dans les guinguettes sont musique d'antan. France Dimanche, sous les branches, ta jeunesse refleurit. France Dimanche, quelle revanche au cœur du vieux Paris. La 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 la. France Dimanche, quelle revanche au cœur du vieux Paris.
Ch- Charles Trenet en 1948. Et je peux dire aux auditeurs que Pierre Bonte la connaît par cœur. Hein. Il l'a chantée de la première jusqu'à la dernière syllabe, parfaitement coordonnée avec Charles Trenet que vous adorez.
Oui, ouais, mais je la chantais en 48, j'avais 16 ans.
Vous aviez 16 ans.
Et donc,
voilà.
Je chantais déjà ça.
En 48, vous aviez 16 ans et vous habitiez dans le nord de la France où votre famille avait décidé que vous deviendriez prêtre ou éventuellement évêque.
C'était l'ambition de ma mère, effectivement, de me voir avec la mitre d'évêque. Mais bon,
ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, non. Mais vous savez, à l'époque, dans le Nord, etc., les parents décidaient pour les enfants. Hein, ma mère avait décidé que j'étais le seul garçon de la famille et elle m'avait donné au bon Dieu, comme elle me disait. Alors voilà, moi j'étais voué à être de prêtre. Puis à partir de l'âge de 15 ans, là, 16 ans, là, justement, ouais. On en est en 48. Je me suis dit, non, je crois que c'est pas pour moi.
Non, vous étiez même assez audacieux parce que, apparemment, c'est une lecture des nourritures terrestres d'André Gide qui vous a fait découvrir que la vie était beaucoup plus intéressante que le clergé, si j'ose dire.
J'ai découvert le plaisir et le désir en lisant les nourritures terrestres et ça a chamboulé complètement ma façon de voir la vie, complètement.
Voilà. Ouais. Et vous êtes tombé sur une petite annonce qui proposait aux jeunes gens de s'inscrire à l'école de journalisme de Lille.
Oui,
et c'est comme ça que tout a commencé.
Oui. Et je suis entré comme ça à l'école du journalisme par goût de l'aventure, pour faire de grands voyages. En fait, vous voyez, je me suis limité beaucoup à l'Hexagone, mais j'ai été très heureux de faire ce métier, très très heureux.
Voilà, et donc néanmoins... Disons que cette émission, Bonjour Monsieur le Maire, qui a vraiment déterminé votre spécialisation dans le métier, elle est arrivée un peu par hasard. Hein.
Bonjour Monsieur le Maire.
Oui.
Ah oui, complètement. Moi, j'étais entré à l'école du journalisme d'abord, ensuite à Europe 1, j'avais 23 ans quand je suis entré à Europe 1. J'ai commencé à tout faire, du reportage, des flashs, comme on disait, ça s'appelait Europe Flash. Et puis un jour, on m'a dit, voilà, on a créé une nouvelle émission pour faire plaisir à Butagaz qui veut faire de la promotion pour ses distributeurs qui sont répartis à travers toute la France, dans chaque commune. Et donc l'émission va s'appeler Bonjour Monsieur le Maire et vous allez vous en occuper. Moi, j'étais descendu de mon or comme je vous le dis, pour partir à l'aventure dans le monde, je ne me voyais pas du tout courir les chemins ruraux. Et puis, on m'a dit, vous n'avez pas le choix. Et Dieu merci, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, le monde des villages, le monde rural. Et depuis, je suis passionné par cette découverte.
Comme on le sait, comme on l'apprécie tant grâce à vous, Pierre Bonte. Alors peut-être qu'un jour, dans les couloirs de la radio, vous avez rencontré un jeune journaliste qui venait d'arriver et qui est à mes côtés. Je vous demande d'applaudir Jean-François Kahn, qui est aussi avec nous ce matin. Pierre Bonte, ça représente quoi pour vous, Jean-François ?
Je l'écoutais avant même de faire moi-même de la radio.
Ah ouais.
Et puis, en effet, quand je suis arrivé à Europe 1, on s'est rencontré.
Forcément, les bureaux de Bonjour Monsieur le Maire étaient à côté de la rédaction et donc on se croisait régulièrement. Oui.
Voilà. Mais alors, cette France rurale que j'évoquais tout à l'heure, cette France rurale d'avant, si j'ose dire, vous l'avez connue, vous, Jean-François Kahn ? Vous
l'avez aimé ? Oui. Alors, il y avait une chanson, je ne sais pas s'il connaît la chanson, qui c'est « Il y a toujours un passage à niveau ».
Ouais.
Il y a toujours un passage à niveau.
C'était aussi ça, la France rurale.
Ou alors, parce que c'est incroyable, par exemple, ma guinguette a fermé
ses volets.
Il y avait toute une série de chansons comme ça sur la nostalgie de la campagne. Il y a toujours eu la nostalgie de la campagne, même quand 60% de la population était paysanne, il y avait déjà une nostalgie de la campagne.
Mais vous avez la nostalgie de cette France un peu disparue, des clochers, des
maires
et des...
Moi, il se trouve que j'ai vécu parce que c'était la guerre.
Ouais.
Et mes parents m'ont envoyé à la campagne pour me cacher.
Ouais, oui.
Dans une famille, c'était au Petit Pressigny, en Indre-et-Loire.
Ouais.
Et je me souviens du phoneau. Avec un énorme
pavillon énorme.
Un énorme pavillon.
Ouais.
Et on tournait une manivelle.
Ouais.
Et c'était ça, il n'y a même pas de radio. Donc mon contact avec la musique, c'était ça. Et on écoutait toujours, il y avait peu de disques. Alors on est toujours le Beau Danube Bleu, je ne sais pas pourquoi. Beau Danube Bleu. Et une chanson que vous connaissez très bien, de Damia, qui est « Dans la rue de nos amours ».
Ouais.
Et pour moi, c'était lié à la campagne parce que ça passait sans arrêt. Mais c'est vrai que ça m'a complètement imprégné. J'ai vécu là toute la guerre et j'ai encore l'odeur. Pour moi, c'est une odeur.
Vous êtes comme chez vous ici, entre les moutons et les dindons.
Alors en plus, il y avait beaucoup de fermes et dans les fermes, les fumiers étaient au milieu de la ferme.
Ben,
aujourd'hui, on ne le fait plus. Et donc, quand on marchait dans les rues de la campagne, on sentait, mais on ne considérait pas que ça sentait mauvais.
Non.
C'était l'odeur de la campagne.
Et puis le fumier manifestait la richesse du cultivateur. Plus le tas de fumier était gros, plus on savait qu'il avait un grand nombre de vaches.
Voilà, et je regrette que notre chaîne n'ait pas de pouvoir de transmission olfactif, parce que tous les auditeurs pourraient apprécier là, de là où nous sommes, près des Moutons de Mayenne. Alors Jean-François, vous avez choisi, vous, une chanson, un de ces grands hymnes à la ruralité, écrit au début du XXe siècle par Goublier, en l'occurrence, qui s'appelle « Semaille ».
Alors, la chanson n'est pas la plus connue. C'est sans doute une des meilleures qu'il ait faites.
Il y a le credo du paysan, il y a etc.
Mais
voilà.
Il a fait des chansons comme le credo du paysan, oui, ou l'Angélus de la mer.
Ouais. Ah oui.
Aujourd'hui, pas celles qu'on va écouter, mais certaines autres aujourd'hui paraîtraient ridicules, il faut dire les choses comme elles sont. Mais elles ont été d'une célébrité, mais on n'imagine pas. Le credo du paysan et l'Angélus de la mer,
C'est célèbre comme l'Angélus de Millet, pour le coup.
Oui, c'est ça. Pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, c'était des chansons aussi célèbres.
À la fin des repas, la tradition voulait que chacun chante une chanson, toujours la même d'ailleurs.
Ça.
Et moi, j'avais un cousin agriculteur qui chantait, oui, le credo du paysan.
Et c'était aussi célèbre que le temps des cerises, pour vous dire. Voilà. Il faut dire aussi que le régime de Vichy a beaucoup utilisé ces chansons, parce que c'est le retour à la terre.
Beurre, voici l'aurore, le coq a sonné le réveil, le ciel de pourpre se colore au premier rayon du soleil, le sillon béant dans la plaine attend le moment où ta main viendra lui confier la graine qui devra germer dans son sein. Sème, 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 que dans les sillons de la plaine se répande le grain au noble cœur.
Eh bien, quelle ode au semaille, effectivement, Jean-François Kahn.
C'est des chansons pour ténor, en plus.
Ah oui, bariton aigu.
Ou bariton aigu, oui.
Voilà, en tout cas, c'était donc Michel Danse dans les semailles de Monsieur Goublier Père, un choix de Jean-François Kahn qui est avec nous ce matin. Je précise d'ailleurs que vous venez aussi de sortir un livre qui s'intitule Droit dans le mur, ou dans lequel vous évoquez, au fond, toutes ces erreurs de la classe politique française depuis plusieurs décennies.
Pas que politique d'ailleurs, c'est toutes les erreurs.
De l'intelligentsia française qu'elle n'a jamais voulu admettre et qui l'ont conduite effectivement droit dans le mur à la décomposition à laquelle on assiste aujourd'hui.
Erreurs, ou des intellectuels aussi. Mais dans le domaine de la chanson. Ou de la musique.
Oui.
C'est, d'abord, regardez ce qu'on a écrit quand Aznavour a commencé à chanter.
Il n'avait pas de voix.
Il n'a pas de voix, c'est inaudible. Il est fait pour tous les métiers, sauf celui-là.
Sauf ça,
ouais. C'était absolument épouvantable. C'était une erreur terrible. Une autre erreur, c'est que vous avez un compositeur-chanteur qui est mort presque dans la misère. D'abord, sa maison disque l'avait viré, parce que ça ne marchait pas. Il est mort presque dans la misère. Et aujourd'hui, il est culte, c'est Bobby Lapointe.
C'est vrai.
Ah, quelle erreur de ne pas avoir reconnu de son vivant que c'était un génie dans son genre. On pourrait multiplier les exemples d'erreurs dans ce domaine. Sans compter, et ça, ça va vous toucher, sans compter que pendant 40 ans, en France, on a oublié que notre génie propre s'investissait dans l'opérette et on ne jouait plus d'opérette.
C'est vrai, c'est vrai. Jean-François Kahn, ce sont des causes qui vous sont chères et qu'on retrouve avec beaucoup d'autres dans ce livre qui vient de paraître, donc Droit dans le mur aux éditions Plomb. Alors, pour revenir à la campagne, avec Pierre Bonte également, il y a un chapitre au début de votre livre qui s'intitule « Pour l'amour du village », où vous parlez de la beauté de l'esprit de clocher, même si l'expression peut apparaître plutôt négative. Et vous évoquez même un village qui se vante d'avoir les plus beaux nuages de France. Je trouve ça merveilleux.
C'est dans la Manche. Moi, je suis touché par cet esprit de clocher qui fait que, où que l'on soit, quelle que soit la région, on est fier du village dans lequel on est né ou
c'est
même
vrai.
Où l'on habite simplement. Ouais. Mais cet esprit de clocher, je trouve que c'est un sentiment très fort et qui est très chaleureux, vous comprenez?
Voilà.
C'est important d'être fier de ce qu'on fait, d'être fier de l'endroit où l'on habite. Ça vous donne une certaine dignité. Et effectivement, chaque village cherche à trouver la petite particularité qui va faire qu'il n'est pas comme les autres, qu'il est différent des autres.
Et partout, il y a un microclimat.
Alors, et voilà, le microclimat, c'est extraordinaire. La France est faite de microclimat, autant qu'il y a de communes. Et c'est Port-Bail, dans la Manche, qui prétend avoir, dans son dépliant touristique, d'avoir les plus beaux nuages de France. Bon, effectivement, il y a de très beaux nuages.
Il y a de très beaux nuages là-bas, vous êtes allé vérifier.
Et, et donc, des couchers de soleil magnifiques, parce que les pays où il y a de beaux nuages, il y a aussi des couchers de soleil sublimes. Sublime.
Vous avez votre village aussi, Jean-François, vous avez une particularité, des nuages spécialement beaux ou
non,
vous allez travailler?
Non, mais moi, ce qui est intéressant, ma famille, c'est pas là où j'ai été pendant l'occupation, mais toute ma famille est originaire d'un village qui s'appelle Mussy-sur-Seine, dans l'Aube.
Ah oui,
et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux villages, un qui s'appelle Mussy-sur-Seine, très industriel, enfin, il y a des usines, etc., enfin, il y avait des usines, et l'autre, à 40 km, qui s'appelle Hérisset, était agricole, avec des vignes, mais ça se vendait pas bien le vin. Or, l'Hérisset, la partie où il y a l'Hérisset, a été classée champagne.
Oui.
Je vous signale que le Mussy-sur-Seine méprisait l'Hérisset, évidemment, la ville industrielle méprisait les bouseux. Aujourd'hui, comme ça a été classé champagne, ils roulent sur l'or, et naturellement, le village industriel est en pleine désindustrialisation, donc il y a un retournement total. Et c'est un symbole de ce qui se passe en France.
Voilà.
Ça. Tout à coup, cette espèce de renversement.
Voilà. Et aujourd'hui, après le mépris généralisé pour les paysans, où on les appelait, comme vous disiez, les bouseux, les péquenots, les ploucs.
Les cutéreux,
cutéreux. Le mot même de paysan était considéré comme une insulte. Aujourd'hui, au contraire, il a acquis une noblesse extraordinaire et on revendique le titre de paysan. Vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est un retournement des mentalités qui, moi, me réconforte, parce que je me dis que ces petits villages qui traversent une crise épouvantable, leur avenir est peut-être pas complètement condamné. Je crois qu'il va y avoir un retour au local,
et
encore une fois, je le dis.
Comment la gauche appelait la droite?
Jean-François Kahn,
j'appelais ça les ruraux.
Les ruraux.
Ah ouais, les ruraux, ça voulait dire la droite.
Et quel mépris là-dedans.
Ouais. Un mot, Jean-François Kahn, du twist agricole. Chantée par les Frères Jacques, une chanson de Jean-Claude Massoulier.
Bah, c'est surtout parce qu'on a complètement oublié cette chanson. Voilà, je trouve qu'elle est intéressante à redécouvrir.
Le soir, lorsque les bœufs sont rentrés dans l'étable, après avoir cassé la croûte des buts, son bijou. Moi je serai ta Marie et on se met face à face.
Elle lui fait yéyé,
elle fait yéyé aussi. Elle enlève ses souliers, moi je tire mes godasses. Et pendant toute la nuit on lance la paix, Marie. Le twist agricole, c'est ça qui nous colle. C'est le vrai bonheur et cultivateur. Le twist du rural, c'est phénoménal. On a ça dans le sang, le twist paysan. Et quand au bout d'une heure, j'ai les jambes enflammées, quand je suis pas des genoux et que je peux plus arquer, je prends le bijou à Victor, Victor pour la gonzère. Il enlève ses godasses, moi je mets les yéyés. Il arrête la Marie et ils se font face à face. Il faut un peu yéyé quand il tient plus court. Il remet ses souliers, moi je tire mes godasses. Je me rattrape la Marie et j'y rends son bidou. Le twist agricole, c'est ça qui nous colle. C'est le vrai bonheur du cultivateur. Le twist du rural, c'est phénoménal. Le twist paysan, après toute une journée passée dans les patates, quand on a trait les vaches et qu'on vient faire ses foins, ça fait un sacré bien se tortiller les pattes. Il se décomplexe en tentant son bassin et quand vient le matin, on repart pour l'ouvrage. Et moi et la Marie et le cousin Victor, et pendant tout le jour on s'aime avec courage dans le creux des sillons de la graine de transistor. Le twist agricole, c'est ça qui nous colle. C'est le vrai bonheur des cultivateurs. Le twist du rural, c'est phénoménal. On a ça dans le sang, le twist paysan.
Twist agricole, une chanson de Jean-Claude Massoulier et André Pop, interprétée par les frères Jacques. Nous sommes toujours au Salon de l'agriculture, en compagnie de Pierre Bonte, de Jean-François Kahn. On parlait de questions de langage à l'instant. Il y a un mot, Pierre Bonte, qui vous exaspère à peu près autant que moi, qui est maintenant devenu, dans la langue de bois politique, à peu près inévitable à chaque phrase, c'est le mot territoire.
Ah oui,
je trouve nos territoires.
On parle plus des communes, parle maintenant des territoires. Des communes. Mais non, la France, c'est 35 000 communes pour l'instant, mais les territoires, ça veut rien dire. Je trouve qu'on banalise complètement le paysage français. Voilà, on uniformise.
Et on dit les climats aussi dans les pays viticoles maintenant.
Les climats.
On dit les climats.
Les climats, c'est un vieux mot qui désigne les petites parcelles de vignes en Bourgogne.
Voilà.
Ça, le climat est un mot historique. Mais les territoires. Alors aujourd'hui, il y avait les territoires d'outre-mer avant. Oui. Maintenant, c'est les territoires d'outre-ville, quoi.
Les
territoire, c'est tout ce qui n'est pas la ville. Hein, c'est
le territoire d'intramère.
Voilà.
Et la métropole aussi, qui vous agace un peu.
C'est un peu le reste, quoi. Voilà. Il y a les métropoles, les grandes villes, et puis les territoires.
Et les territoires. Voilà. Alors, nous sommes donc à Paris, à la porte de Versailles, au Salon de l'agriculture, et même si nous parlons beaucoup de la campagne, nous n'oublions pas que nous sommes au cœur de Paris, qui est une ville qui a été peuplée de provinciaux qui ont fait sa gloire et qui ont fait ses chansons. Et c'est pourquoi nous allons évoquer maintenant le Quartier Latin en compagnie d'Annick Sirazuc et David Venitucci à l'accordéon.
Quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent monotone. Quartier latin. Chez Dupont, ça traînait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année.
examen, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquet ni trompette, quartier latin, quartier latin, quartier latin. Cette frangine qui vendait sa bohème et ce spleen qui traînait dans sa traîne. J'avais rien, ni regret, ni principe. Les putains, ça me prenait comme la grippe. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Ce vieux prof qui parlait à son aise, très bien sauf que c'était pour les chaises. Aujourd'hui, un diplôme, ça se rupine. Aux amphis, tu pointes comme à l'usine. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Les années, ça dépasse comme une ombre. Le passé, ça repasse et tu sombres. Rue Soufflot, les vitrines font la gueule. Sans un mot, je me débine, je ferme ma gueule. Je retrouve plus rien, tellement c'est loin. Quartier latin, je retrouve plus rien, tellement c'est loin. Quartier latin.
Quartier latin, une chanson de Léo Ferré par Annick Cizaruc qui l'a chantée et David Venitucci à l'accordéon qui me rejoignent tout de suite au micro pour nous dire quelques mots, notamment d'ailleurs de leur dernier disque très beau qui vient de paraître. Je précise que j'ai connu ce duo grâce à mon confrère et ami de France Musique Laurent Valero qui les a sans doute déjà reçus et diffusés, et il a bien fait en tout cas parce qu'on est très heureux d'être avec vous ce matin au Salon de l'Agriculture. Vous qui chantez des chansons dans l'ensemble, on dira assez urbaines. Vous devez être un petit peu dépaysé ou décalé entre les moutons et les cochons.
Oui et non, parce qu'on a l'habitude de chanter dans des lieux improbables, des petits cabarets, des grandes scènes, des petites scènes, des voilà.
Vous n'aviez pas encore fait le Salon de l'Agriculture.
Non, c'est la première fois, vraiment.
Merci d'être avec nous en tout cas, Annick Cizaruc. Vous auriez pu être comédienne. D'abord, parce que vous avez fait le conservatoire, vous avez beaucoup joué dans des tas de spectacles, notamment pour les musiciens, on peut rappeler un petit Mahagonie et d'autres pièces
de Brecht. Et un opéra de Katsou avec Streller.
Voilà, et puis finalement, avec le temps, vous êtes allé de plus en plus vers la chanson.
Bah, en fait, c'est vrai que depuis toute petite, je chante et c'est vrai que j'adore la chanson, parce que la chanson, c'est aussi s'habiller pendant 3 minutes avec des couleurs comme ça, des émotions comme ça, et puis on passe à une autre et c'est encore autre chose. Et ça me passionne complètement. C'est mon côté aussi théâtral.
Et vous aimez bien d'ailleurs vous assumer, même si votre dernier disque était fait de création, de reprendre les chansons justement de Ferré, de Barbara et de quelques autres.
Hein. J'adore ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cora Vauquer il y a fort longtemps et qui est venue me voir dans un petit cabaret et elle m'a dit surtout continuez ça parce qu'il faut qu'on continue cette chanson, cette belle chanson.
Voilà, et alors vous avez pour partenaire donc David Venitucci qui est un merveilleux accordéoniste au parcours extrêmement riche lui aussi. Je précise, David Venitucci, ça m'a frappé dans votre biographie parce que j'ai l'impression que moi que ça me renvoie très loin et pourtant vous êtes encore fort jeune. Vous avez joué avec Francis Lemarque.
Oui, j'ai eu cette grande chance de rencontrer Francis et d'enregistrer un album, le dernier album de Francis Lemarque, qu'on a enregistré en Allemagne, à Sarrebruck, à la radio sarroise.
Oui.
Et voilà, c'était un grand bonheur de le rencontrer et puis d'avoir le voilà. privilège de l'accompagner. En tout
quel
cas.
Grand poète de la chanson et quel instrument à travers lui jusqu'à aujourd'hui, évidemment indispensable dans la chanson française que l'accordéon. Vous assumez le fait d'être l'instrument des chanteurs et pas seulement un instrument soliste au fond.
Oui, bah, oui, oui. En plus culturellement, moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de chansons, donc ça fait partie de mon patrimoine.
Voilà.
Donc je me suis vraiment formé en accompagnant des chanteurs. Donc c'est très naturel tout ça pour moi.
Voilà, et on l'entend. Alors il faut dire un mot peut-être, on va vous retrouver tout à l'heure, mais du dernier disque que vous venez de faire et qui est consacré aux chansons d'un poète dont vous pouvez peut-être nous dire un mot.
Il s'appelle Yanofsky. En voilà. fait, c'est un poète, un immense interprète aussi, il chante. Et voilà, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant un an. Je lui ai donné des thèmes qui m'importaient énormément. Et il a écrit du sur-mesure, magnifique. Yanofsky, il s'appelle.
Voilà, c'est Yanofsky. Vous nous rappelez le titre de cet album qui
La vie en vrac.
La vie en vrac. Et c'est donc interprété par David Venitucci à l'accordéon, Annick Cizaruc au chant. On vous retrouve tous les deux, bien sûr, tout à l'heure.
Merci. Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre. France Musique.
Et je suis toujours en compagnie de Jean-François Kahn et de Pierre Bonte. Alors on a compris, et on va y revenir, que Jean-François est un grand passionné de chansons. Et vous aussi, Pierre Bonte, on l'a vu avec Charles Trenet, vous aimez vraiment la chanson. C'est important dans votre vie. Vous dites...
Ah oui, tout gamin, moi je chantais déjà. Je vous disais, à la maison, chez moi, on chantait toujours dans les repas de famille, hein, à la fin.
Oui, c'est ça.
Mon père chantait Le Temps des Cerises. Mon cousin chantait Le Credo Paysan, comme je vous disais. Et moi, j'apprenais, je chantais du Trenet. La fille du facteur de Charles Trenet, enfin des choses comme ça.
Et vous nous avez quand même apporté aussi aujourd'hui, ou recommandé, Pierre Bonte, une chanson alors tout à fait contemporaine d'un jeune chanteur qui s'appelle Gauvin Serre et qui s'intitule Les Oubliés.
Ah oui, alors ça c'est un jeune chanteur qui raconte eh bien, l'histoire de tous ces ruraux qui se battent pour essayer de faire survivre leur village, qui se battent en particulier par exemple pour garder leur école communale. Et il a écrit cette chanson justement après avoir reçu une lettre d'un directeur d'école qui voyait son école fermée et qui cherchait à faire entendre la voix de la commune. Et il a fait cette chanson qui s'appelle Les Oubliés, qui est vraiment magnifique et que je suis heureux qu'on entende ensemble.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux. ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés.
Les oubliés, une belle chanson, alors vraiment deux circonstances, hein, on peut dire, Pierre Bonte, vous qui venez de publier Ces villages qu'on assassine.
Oui, c'est un peu justement pour faire entendre leur voix, essayer de faire passer leur voix que j'ai écrit ce livre, parler de la réalité de leurs problèmes, qui est vraiment ignorée de nos élites parisiennes, c'est épouvantable, l'ignorance. C'est pas le mépris dont souffrent les paysans et les campagnards, c'est la méconnaissance.
La méconnaissance qui dure.
Tous ces énarques élevés hors sol qui n'ont aucune conscience, aucune connaissance simplement de ce qu'est la réalité des gens qui vivent dans le monde rural. Ça m'affole.
Mais les élus locaux, ils sont un petit peu plus au courant. Régionaux, par exemple.
Ils essayent de se faire entendre. Mais je remarque, moi, que ces élus locaux, quand ils deviennent députés, quand ils acquièrent, vous savez, ils passent du statut d'amateur au statut de professionnel. Alors, un maire rural qui devient député, il devient un pro et il prend une mentalité de pro. C'est-à-dire que pour paraître digne de sa promotion et pour avoir l'air moderne, eh bien, il adopte les concepts et les théories de tous ces énarques qu'il côtoie quotidiennement dans les ministères. Alors ça, c'est une évolution épouvantable. Et voilà, et les ruraux deviennent les oubliés, comme le chante Romain Fer.
Jean-François Kahn, oui. Cette chanson, elle vous inspire une réflexion?
Non, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le thème comme ça, de retrouver la campagne, l'authenticité rurale,
ouais.
Comme ce qu'on a écouté, Somaille ou le Credo du Paysan, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, quasiment jusqu'en 50, ouais. C'était considéré comme de la chanson de droite, hein, rurale.
Oui. La valorisation de la
voilà,
paysannerie,
c'est vraiment quand c'est la chanson. Et à partir des années 60-70, et c'est le cas du chanteur qu'on vient d'entendre, ouais. C'est devenu une chanson de gauche.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est vrai. C'est vraiment une chanson de gauche, voire d'extrême gauche, qui a commencé, au contraire, à idéaliser sur des thèmes écologiques.
Ouais.
Écologistes, on laisse tomber la réalité, le petit commerce.
Le petit commerce, fallait pas le défendre dans les années 60.
C'est la faute du capitalisme mondialisé qui écrase la finance, cette authenticité provinciale.
Ben oui, les ruraux sont
devenus
c'est le nouveau prolétariat.
Voilà.
Et voilà, c'est comme ça qu'on est passé de la droite à la gauche.
Jean-François Kahn, on peut pas tout écouter aujourd'hui. Je l'ai déjà passé la semaine dernière. Vous auriez bien aimé que je passe La vache à 1000 francs par Jean Poiret, détournement de la valse de Brel.
C'est la seule chanson que je connais qui essaye d'exprimer en chanson un problème économico-agricole complexe.
Voilà,
ça a été une époque où on disait « suivez le bœuf ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait suivre le bœuf pour essayer de court-circuiter les intermédiaires qui faisaient monter le prix du beefsteak. Et donc, il y a eu cette chanson, on suit la vache, et à mesure qu'on la suit, le prix monte, et à la fin, le beefsteak. C'est-à-dire, l'agriculteur ne gagne rien, parce qu'on lui achète le lait ou la vache à un prix minimum, alors le mec qui mange le beefsteak après, alors lui, c'est le prix maximum. Et donc, il y avait une chanson là-dessus.
Et puis, alors, j'ai aussi annoncé dans le sommaire que vous êtes un passionné de colchique dans les prés.
Non, c'est pas ça, mais vous savez, j'ai fait un jour une émission sur la guerre de 14-18, en chanson, et j'ai invité des anciens combattants de cette époque. Et il y en avait trois. J'aurais demandé, mais on chantait quoi dans les tranchées, sur la route? Ils chantaient pas du tout les marches militaires. Et ils chantaient pas du tout les chants militaristes. Les deux chants les plus chantés, c'était Auprès de ma blonde. C'était dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris, la tourterelle, ils viendront leur faire leur lit. C'est vraiment agricole. Et les fraises et les flamboises. Ah, les fraises et les flamboises. Avec en plus des
un peu coquin.
Voilà, avec un peu coquin. Et donc, on voit bien que c'était une inspiration agricole très forte. Ce qui fait qu'en 40-45, quand il y a eu le passage, le thème du retour à la terre, ils ont fait une fausse chanson ancienne, comme ça. À thème agricole, qui était colchique dans les prés. Mais c'est celle-là, celle-là est
fausse,
une fausse. Mais j'ajoute une chose, c'est que les deux chansons sur l'agriculture les plus célèbres, l'un c'est Il pleut bergère, enfin qui est agricole, Il pleut bergère,
d'une
manière. Quel est l'auteur? L'auteur, c'est un révolutionnaire montagnard, terroriste.
Ouais.
Et l'autre, j'ai deux grands bœufs dans mon étable.
L'auteur,
c'est Pierre Dupont, un des premiers chanteurs socialistes.
Ouais. Et oui.
Je vois que vous êtes tous les deux extrêmement...
Et le temps des cerises est aussi... Alors là, c'est encore une chanson...
Oui, mais là, c'est pas un thème agricole.
Ah, les cerises, si. Alors, les framboises.
Pierre ouais. Bont, avant de retrouver notre autre invité, Denis Lefeuille, j'ai choisi de passer, parce que je crois que vous l'aimez beaucoup et que vous l'avez même utilisé, un petit extrait de la symphonie Sévenol de Vincent Dindy.
Ah, oui. Quand je faisais des émissions, des reportages dans le petit rapporteur sur la campagne, mon illustration musicale, c'était toujours la symphonie Sévenol de Vincent Dindy. On peut l'écouter ?
Oui, on écoute le final par l'orchestre de Philadelphie, Eugène Ormandy, et au piano Robert Casatsu. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'agriculture à la Porte de Versailles. Vous suivez l'émission Étonnez-moi Benoît au milieu des ovins, des caprins, des porcins. Je vois tout ce qui s'affiche dans ce grand hall numéro 1 de la Porte de Versailles. On parle évidemment aujourd'hui beaucoup d'agriculture en compagnie de mes invités Pierre Bont et Jean-François Carme. Et puis également Denis Lefeuvre, que j'ai la joie d'accueillir. Bonjour Denis Lefeuvre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également ce matin, parce que j'ai été frappé. Vous avez quand même entrepris un livre assez étonnant par son ambition. C'est une histoire mondiale de l'agriculture en 2 volumes.
Oui.
Qui vient de sortir, donc dans son édition intégrale.
Oui, ça a été un long travail. J'ai travaillé à peu près 2-3 mois par an pendant 15 ans sur ce thème. Entre-temps, j'ai fait d'autres livres, mais ça a été passionnant. En plus, j'ai vécu mon enfance dans une ferme, dans l'Aisne. Et puis, j'ai fait mes études à Paris. Je suis resté une 15aine d'années à Paris. Et puis, je suis retourné depuis 20aine d'années dans mon village d'enfance.
Voilà, vous avez été entre-temps journaliste, notamment dans des revues agricoles, aussi à La Croix. Oui. Vous avez même interviewé Pierre Bont à une époque, je crois.
Oui, on a travaillé un peu ensemble. Je lui ai donné des documents pour une numéro d'envoyé spécial.
Destiné à envoyer spécial.
Envoyé spécial.
Sur la faim des paysans.
Et alors, ce qui m'a frappé dans votre travail, entre autres, c'est évidemment trop riche pour rentrer ici dans le détail, mais ce sont des rencontres qui ont été déterminantes, et notamment celle d'un personnage que les jeunes générations ont un petit peu oublié, mais qui, moi, ont marqué la première fois que j'ai commencé à suivre les élections à la télévision, c'était René Dumont.
En 74.
René Dumont, ça a été le premier homme, au fond, à mettre vraiment dans le débat public français ce thème de l'écologie dont tout le monde parle jour et nuit aujourd'hui.
Oui, moi j'avais fait des études d'agriculture et j'avais été très très marqué par cette campagne électorale. C'était à cette époque-là, il venait de prendre sa retraite. Mais René Dumont, je trouve qu'il témoigne de toute l'évolution du siècle.
Voilà, parce que c'était un moderniste au départ.
C'était un moderniste, un productiviste même. À la Libération, il a fait partie de la commission Monnet, qui était l'ancêtre du commissariat au plan. Il est allé aux États-Unis et il est revenu en disant « mais il faut adapter ce modèle à la France, il y a trop de paysans, etc. etc. » Ouais. Et c'est lui qui a lancé la révolution fourragère. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des prairies naturelles, on va cultiver des prairies artificielles pour augmenter la productivité. Et puis, il a été pendant 40 ans professeur d'agriculture comparé à l'agro à Paris. Il a traversé le monde. Il a conseillé tous les chefs d'État africains, asiatiques, etc.
Il a changé vraiment de perspective.
Et je crois que l'étincelle, la goutte d'eau, c'est le club de Rome. En 70, il a découvert que finalement, il s'était trompé quand même, pas au début de sa carrière, mais sur la fin de sa carrière, et que les enjeux environnementaux étaient très, très importants. Problème. Et il a été le premier candidat écologiste aux élections. Présidentielle.
Vous vous rappelez, Jean-François Kahn, non, moi, Dumont.
Je l'ai eu comme professeur. Et je l'ai bien connu. Il était absolument formidable, avec quand même un reproche que l'on vit aujourd'hui, qui est une vision extrêmement catastrophiste et donc décourageante. C'est-à-dire, alors qu'il faut au contraire mobiliser en disant oui, on peut se battre, oui, on peut gagner, oui, on peut renverser les choses. Il y a un côté absolument démoralisant dans cette vision nihiliste, négativiste de tout.
C'est oui, ce que, Denis Lefebvre,
que je lui reprochais.
Elle était catastrophiste à l'époque, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Parce qu'il a, il a été prophétique, il avait quand même bien vu. C'est le premier à avoir parlé
de
réchauffement climatique. Et c'est vrai
oui,
qu'en
même temps, il voyait la famine dans les 10 ans. Il n'a pas eu la famine dans les 10 ans. Vous voyez, il ne faut pas...
Oui.
En tout cas, voilà un des éléments, parmi beaucoup d'autres, de cet ensemble de deux livres qui racontent l'histoire mondiale de l'agriculture que vous avez écrit, Denis Lefebvre. Et vous nous avez apporté aussi quelques chansons. J'ai retrouvé avec délice celle-ci que j'avais un petit peu oubliée, Les bergers par Jacques Brel.
Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers. Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages, qui appellent au puits tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire telle peur que pour trois nuits au moins nous rêvons des frayeurs, des bergers. Ils ont les mêmes rites et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes, les bergers. Entre l'an et de jeunes, entre l'an et de beau, qui appellent les filles à faire le gros dos, les bergers. Ceux-là ont des sourires qu'on dirait une fleur et des éclats de rire à faire jaillir de l'eau, les bergers. Ceux-là ont des regards à vous brûler la peau, à vous défiancer, à vous clouer le cœur, les bergers. Qu'on soit fille ou garçon, les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons, les bergers. Alors nous partageons le vin et le fromage et nous croyons une heure faire partie du voyage des bergers. C'est un peu comme Noël, Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes ont fini de nous boire notre eau, se remettent en route à l'ombre d'un pipeau, les bergers, les bergers.
Les bergers par Jacques Brel, un choix de mon invité Denis Lefebvre qui vient de publier en deux volumes une histoire mondiale de l'agriculture, une histoire de l'agriculture qui commence donc au Moyen-Orient.
Au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, et où les cueilleurs-pêcheurs de l'époque sont devenus des agriculteurs, ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux, le blé, le bovin, l'orge, le mouton. Et puis sont devenus sédentaires, alors qu'ils étaient nomades. Dans un premier temps, ça a été une agriculture sur abattis brûlis, c'est-à-dire un peu nomade. On venait tous les 4-5 ans, on brûlait la forêt, on la cultivait, c'était très riche. Et puis ensuite, une année ou deux années après, on allait cultiver une autre partie.
Jean-François Kahn ?
Ce qui me fait penser, c'est qu'à l'origine, contrairement à ce que les gens croient, à l'origine, il n'y avait pas de cochons, il n'y avait pas de vaches et il n'y avait pas de chiens. C'est-à-dire, c'était les loups qui sont devenus les chiens, les sangliers qui sont devenus les cochons, et les aurochs qui sont devenus les vaches. Mais ça ne faisait pas partie de la nature à l'origine.
Voilà, et c'est encore un effet de l'agriculture, justement.
De cette transformation.
Et quasiment pendant 10 000 ans, là, on a domestiqué les principaux animaux, mais depuis 5000 ans, on n'a quasiment pas domestiqué d'espèces nouvelles. En végétal, on a domestiqué la betterave sucrière et l'avoine, mais c'est quasiment tout. Et nous, occidentaux, on n'a quasiment rien domestiqué.
Voilà, et alors, en tout cas, nous sommes au cœur du sujet à ce salon de l'agriculture, au milieu de toutes ces espèces domestiquées, pour le coup. Et vous avez choisi encore une autre chanson de Denis Lefebvre, qui est très jolie, alors beaucoup plus récente, d'Alain Souchon, qui s'intitule « Pardon ».
Oui, pardon, voilà. Parce que on a fait beaucoup de mal à la nature ces 40 ou 50 dernières années. Ouais. Et je trouve que c'était un moyen de rendre hommage aux vrais paysans qui, eux, ont su maintenir une relation, comme le montrait Pierre Bonte, une relation très respectueuse vis-à-vis de la nature. C'est l'arrivée de la chimie, l'arrivée du machinisme, il y a une cinquantaine d'années, qui a modifié complètement la donne. Il est resté des paysans, au sens vrai du terme, qui ont continué à élever des races qui étaient en voie de disparition. Et aujourd'hui, elles sont très importantes parce que...
J'en sais quelque chose parce que je suis très attaché à la vache vosgienne, oui, par exemple, qui fut un temps menacée. Et grâce notamment à Fabienne Thibault, qui s'est mobilisée pour la vache vosgienne, bien qu'elle soit canadienne, la vache vosgienne est aujourd'hui sauvée.
Oh, libellule si délicate, oh, les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide.
Alain Souchon, pardon pour tout ce mal que nous faisons à notre belle planète. Alors, je ne sais pas, Denis Lefebvre, en conclusion, si vous partagez justement cette vision un petit peu catastrophiste qui était celle de René Dumont. Est-ce qu'on va vraiment dans le mur de plus en plus vite dans le domaine de l'agriculture, ou est-ce que vous pensez, comme Jean-François Kahn, que voilà, Il faut simplement réagir et aller de l'avant.
Je pense qu'il faut réagir. Aujourd'hui, on a un éclatement du monde agricole. Aux extrémités, on a des firmes multinationales dans des logiques financières très fortes qui sous-traitent le travail à des entreprises. À l'autre extrémité, on a des nouveaux acteurs du monde rural qui ont fait d'autres métiers, qui viennent de la ville et qui investissent dans les circuits courts, les AMAP, etc., la permaculture. Et puis au milieu, on a encore majoritairement une agriculture familiale, mais qui est plus ou moins en sursis. Ouais. Alors, il faut espérer, c'est que les nouveaux acteurs du monde rural, d'une agriculture un peu plus alternative, de qualité,
vont peu à peu s'imposer et prendre davantage de place dans l'espace de nos campagnes. Pierre Bonde, vous êtes un catastrophiste ou un optimiste?
Non, moi, je suis un optimiste. Moi, enfin, dans ce domaine, oui, je crois. Vous savez, je ne sais pas. Je crois que le monde va énormément changer, que les villes vont exploser, qu'il y a des systèmes qui, aujourd'hui, paraissent évidents à tout le monde et qui vont devenir désuets un jour ou l'autre. Et qu'il y a une seconde vie, peut-être, pour ce monde rural. Et voilà. Pour l'agriculture.
Mais je crois que l'agriculture, un laboratoire de modernité, concentre tous les grands problèmes, tous les enjeux de société, l'environnement, la santé, l'aménagement du territoire, les rapports géopolitiques, les rapports nord-sud, les marchés mondiaux. Et on est au cœur de tous ces enjeux. Et de la manière dont on traitera la question agricole dépendra notre type de société.
Et donc, pour nourrir cette réflexion, j'invite tout le monde à lire cet ensemble de deux gros livres de poche, Des racines et des gènes, une histoire mondiale de l'agriculture de Denis Lefebvre, qui vient de paraître aux éditions L'Éco-Poche. Et puis, Pierre Bonte, je sais que vous aimez la poésie, on a parlé tout à l'heure des nourritures terrestres, vous aimez Apollinaire?
Ah oui. Alcool, ouais. Tous les poèmes d'alcool pour Mirabeau, bien entendu, c'est la plus connue. Mais
vous connaissez Marie Zibyl?
Ouais, très bien. Oui. Dans la haute rue à Cologne, elle était venue en tout mignonne. Enfin, je ne sais
c'est
plus.
C'est un fin lettré. Puis avant, ça fait plaisir de vous entendre parler de ça, parce qu'on va écouter justement Marie Zibyl à l'instant, chantée par Annick Cizaruc.
Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous en tout mignonne, puis buvait l'asse des trottoirs très tard dans les brasseries borgnes, très tard dans les brasseries borgnes. Aïe, 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 elle se mettait sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il me sentait l'ail, aïe, aïe. Et l'avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Tiré d'un bordel de Shanghai. Aïe, 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 aïe. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes, leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte. Leur cœur bouge comme leur porte. Tout mignonne, puis buvait l'as place des trottoirs, très tard dans les brasseries borgnes. Très tard dans les brasseries borgnes. Aïe, 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 aïe,
très belle chanson sur un texte d'Apollinaire qu'on vient d'entendre donc ici au Salon de l'Agriculture par Annick Cizaruc et David Venitucci à l'accordéon.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et pour terminer cette émission, alors Jean-François Kahn, qui est un habitué de ce micro, m'a proposé de revenir sur un compositeur que nous adorons tous les deux et auquel il a voulu consacrer voilà, un petit moment spécial, puisque nous sommes ensemble ce matin. Jean-François, vous avez aimé c'est beau,
bien,
cette chanson.
Bien,
hein.
Très très bien.
Vous, votre poésie, c'est plus Hugo qu'Apollinaire, non ?
Non, c'est pas contradictoire. Moi, j'aime beaucoup de toute façon les tentatives de mettre en musique un certain nombre de poèmes.
Voilà.
Des fois c'est raté, mais quand c'est réussi, c'est magnifique.
Ah oui, là Léo Ferré est le meilleur dans le genre, je peux dire.
Bien sûr.
Hein, Ferré, le bon Mirabeau, c'est magnifique aussi par Léo
mais
Ferré.
Si vous voulez, il a dit quelque chose de très juste, Pierre Monde. On a des trésors nationaux en France, vraiment, qu'on a tendance à larguer. C'est des paysages, et quelquefois on les détruit. C'est des villages, et on les défigure. C'est des œuvres qu'on a oubliées. Je sais pas, Anatole France est un immense écrivain. On l'a largué, on a fini par oublier ça. Et c'est vrai aussi en musique. Et en musique, on a des trésors où c'est notre génie propre qui s'investit, différent. C'est le grand opéra du 19e, où on était vraiment...
C'est la gloire
de la France. Oui, beaucoup, enfin, qu'on a complètement voulu oublier. C'est l'opérette, c'est Offenbach. Et c'est ça, ces opérettes d'entre les deux guerres.
De Maurice Yvain, notamment.
Exemple,
alors
c'est Maurice Yvain et Wilmette. Ouais. C'est le couple. C'est un des meilleurs paroliers qu'on ait jamais eu, un des musiciens les plus doués. Alors il se trouve qu'au lieu de faire des symphonies et des opéras, il a décidé de faire des opérettes ou de la variété. Mais quel don! Et ce couple-là, Wilmette-Maurice Yvain, mais c'est tout le génie français, absolument voilà. Tout le génie français. Et pendant toute une époque, on a voulu, par une espèce de masochisme antinational, quelque part, on a voulu le larguer. Et ben, c'est bien qu'aujourd'hui, on est en train de redécouvrir ça.
Alors écoutons une des plus célèbres chansons d'Yvain et de Wilmette, c'est « Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres ». C'est dans une opérette qui s'appelle « Là-haut
».
Et c'est chanté par Maurice Chevalier qui l'a créé.
C'est-à-dire, il y a une dame qui dit « Ah, montrez pas ça, c'est affreux ». Et voilà ce qu'il lui répond.
Voilà.
Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Je n'ai pas sur ce point-là le même avis que le vôtre. Quand c'est tout petit, c'est bien plus gentil. Quand il y en a beaucoup, on n'en voit plus le bout. D'ailleurs, c'est toujours beaucoup mieux de garder un juste milieu. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Je n'ai pas sur ce point-là le même avis que le vôtre. Enfin, pour la mode, c'est bien plus commode. Pour danser le chimie, c'est bien plus mimi. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. La saison dernière, dans un trou pas cher, je prenais mes bains de mer sans maillot. D'ailleurs, à quoi bon porter un caleçon, voir un joli garçon, c'est si beau. Je prenais donc mes aises quand une vieille anglaise tout à coup surgit et rugit. Oh, vit-elle mon Dieu, comme c'est affreux. Je répondis d'un air gracieux. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Les beautés de votre pays sont-elles différentes des nôtres? Dans mon petit complet, qu'est-ce qui vous déplaît? Je vous en supplie, voyez-vous un pli? car je m'aperçois que vos yeux tiquent sur un endroit de ma plastique.
Dites si vous n'aimez pas ça.
N'en dégoûtez pas les autres. Vous n'avez pas ce truc-là, probablement sur le vôtre. Ah non, c'est un grain de beauté, je peux pas l'ôter. Il est mal placé, mais il plaît assez. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Ma voisine en dessous est mauvaise comme tout et bat son époux tous les jours. Hier soir, le mari poussait de tels cris que vite, je descendis à son secours. Je lui dis tout bas, votre femme vous bat. Là que c'était plus ça. Mais voilà que cet homme très doux me dit, après tout, de quoi donc vous mêlez-vous? Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Je m'occupe de ma moitié, occupez-vous de la vôtre. Pendant qu'elle me bat, ma femme ne sort pas. Et soyons logiques, c'est économique. J'aime mieux qu'elle me tape, c'est plus franc. À coup de poing qu'à coup de 100 000 francs. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Chacun a ses passions, n'avez-vous donc pas les vôtres? Les bleus et les coups, ça m'excite beaucoup. Ça me permet chaque soir de remplir mes devoirs. Alors si vous n'aimez pas ça, ben quoi, n'en dégoûtez pas les autres.
Une chanson d'Albert Villemette et Maurice Yvain de l'opérette là-haut. Mais ce qui est génial, Jean-François Kahn, il faut le préciser, c'est que ce refrain de Villemette, il est devenu une phrase du langage courant.
Ah oui, 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 absolument. Comme dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Qui est sorti d'une opéra dans la vie.
Exactement,
faut pas s'en faire.
Un autre refrain d'une autre opérette, Dédé,
qui devient une phrase courante, absolument. Mais récemment, ils ont passé d'ailleurs une opérette de Maurice Yvain, pareil, succès formidable, oui, qui s'appelle Yes.
Yes.
C'est marrant parce que
c'était
le principe.
C'était au théâtre de l'Athénée. Hein.
Il faut dire la vérité, ces opérettes, c'est après la guerre de 14-18, donc il faut se défouler. Tout à coup, on a subi un drame terrible, il faut se défouler. Et dans l'ensemble, ça ne parle que d'affaires de cul, hein, faut dire.
Et d'argent. Bon. Et d'argent.
D'argent et de cul. Mais quand même, faut un alibi. Et donc, il plaque là-dessus des problèmes sociaux ou sociétaux. Et dans Yes, par exemple, donc c'est une affaire. Il y a un domestique. Et le domestique, il est vraiment domestique. Oui, patron, oui, patron. Mais en même temps, il boue à l'intérieur d'être un domestique. Alors, il se présente aux élections comme candidat communiste dans le 16e arrondissement.
Ah, voilà, c'est ça.
Et il fait 363 voix. Et il a un air, et il y a des airs du député communiste absolument extraordinaire.
Voilà, parce qu'il vraiment... il faut dire que Yvain est un très, très bon compositeur. Hein,
excellent. Que je vous dis, il aurait pu écrire des cantates, des opéras, mais il a le choix. Dis ça, d'ailleurs, Honegger disait que sur le plan de tout ce qui est musique d'antan, quatuor, quintette, septuor, c'était sans doute un des meilleurs musiciens de son époque.
Absolument.
C'est très très bien fait.
Alors il y a justement un ensemble que vous adorez, qu'on va écouter avant de retrouver nos amis du duo chantant tout à l'heure. Un ensemble que vous aimez beaucoup, c'est celui de Tabouche, c'est l'ensemble du Pas de Vis.
Que vous auriez pu d'ailleurs choisir pour l'agriculture,
ouais.
Puisqu'il dit, il y a un duo, il dit moi j'ai des terres, moi...
Moi des coupons, mais ça c'est le quatuor.
Ouais, ça c'est le quatuor, ben vous verrez. C'est le quatuor, on joue sur les différences de voix.
Voilà, des conversations superposées.
Moi je trouve que ça vaut le quatuor de Rigoletto, mais dans un genre différent.
Puisqu'un heureux hasard va nous permettre de rentrer tous quatre en relation.
Puisqu'un heureux hasard va nous permettre de rentrer tous quatre en relation.
Il serait opportun, je crois peut-être, qu'à nouveau nous nous présentations.
Il serait opportun, je crois peut-être, qu'à nouveau nous nous présentations.
Le moment en effet me semble très propice.
Le moment en effet me semble très propice.
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 Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du Pas du Pas du Pas du Pas du Pas de Vis. Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du Pas du Pas du Pas du Pas du Pas de Vis. Vous connaissiez mon fils, vous connaissiez Miss, mais pas Madame du Pas du Pas du Pas du Pas de Vis. Vous connaissiez mon fils, vous connaissiez Miss, mais pas Madame du Pas du Pas du Pas du Pas de Vis.
Charmé, vraiment.
madame de vous voir. Faisons semblant de ne rien savoir. Dans le monde, ce qu'il vous faut avaler, de faux ménages seulement collés. Vous avez un chapeau qui est un vrai délice.
N'est-ce pas qu'il est gentil? Il sort de chez les Whis.
Chez les Whis?
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 Chez les Whis? Chez les Whis? Chez les Whis?
Sûrement c'est immondice.
D'après tous les indices.
Dans ces magasins du 680, du 690.
Sûrement c'est immondice.
D'après tous les indices. Dans ces magasins du 680, du 690. Sûrement c'est
immondice. C'est vraiment d'animé. Il se tient pour le chien. Il faut le dire en tant que c'est un délice. Oh la loupe. Il se tient pour le chien. Il faut le dire en tout chien. C'est un quel artiste que c'est les Whis.
Mais comme l'heureux hasard encore peut-être nous fera rencontrer en Paris.
Mais comme l'heureux hasard encore peut-être nous fera rencontrer en Paris.
Madame du Pas de Vis, veuillez permettre que je vous présente mon mari.
Nous serons ravis autant qu'on peut l'être de connaître enfin votre mari.
Elle n'a vraiment pas le trac de me servir mon truc.
Allons, n'ayons pas le trac et servons-lui son truc. Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayez duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc. Ayons duc. Culot, voici le duc. Montrez-leur votre éducation du culot. Duc, du culot, duc. Songez qu'on vous reluque. Ayez du culot, duc. Montrez-leur votre éducation du culot. Duc, du culot, duc. Songez qu'on vous reluque. Je vous présente.
Enchanté, moi, je suis le duc. Mais c'est quand même un cas.
De mon truc à son tour, il n'a pas l'air complice.
De son truc à leur tour, n'ayant pas l'air complice.
De mon truc,
de ton truc,
de mon truc,
de ton truc,
pas complice,
pas complice,
pas complice,
pas complice.
Si vous ne croyez
pas
que c'est madame,
madame Dupas,
madame Dupas, madame Dupas,
madame Dupas,
madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame
Dupas, madame Dupas, madame
Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame
Dupas, madame
Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas,
madame Dupas,
madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame
Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame
Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas, madame Dupas,
Un extrait de Tabouche de Maurice Yvain qu'on peut applaudir en même temps que Jean-François Kahn qui montre une telle ferveur militante depuis tant d'années pour les causes qui lui sont chères, à commencer par l'opérette. On a entendu Max Derieux, Fanélie Révoil, Pierre Héral et Souris dans ce trio. Et je rappelle que Jean-François Kahn, pour nous éviter de faire encore beaucoup d'erreurs, venait de publier Droit dans le mur, de nos erreurs et du refus de les reconnaître aux éditions Plomb. Un dernier mot, Jean-François ?
Oh ben j'ai eu plaisir à réécouter ça, je m'en
lasse pas.
Mais qu'on demande aux gens qu'ils redécouvrent tout ça.
Voilà.
Vraiment.
Mais ça évolue plutôt dans le bon sens, pour le coup.
Oui, oui, ça commence,
voilà.
Absolument.
Ça n'est que
sous les Palétuviers, par exemple, je crois que tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent.
Sous les Palétuviers roses,
sous les,
bien sûr.
Sous les Palétuviers, eh ben, c'est tiré d'une opérette de cette époque.
Exactement. Et puis donc, j'étais en compagnie de Denis Lefebvre pour Des racines et des gènes, une histoire mondiale de l'agriculture aux éditions L'Écopoche. Merci d'être venu, Denis Lefebvre.
Vous.
Il se trouve que vous avez choisi une chanson que Pierre Bont a choisie aussi. Alors, on va terminer avec cette chanson. Je dirais que tout le monde connaît, mais qui est très belle, en plus avec les orchestrations d'Alain Goraguer merveilleuse, et puis la voix de Jean Ferrat, La Montagne, Pierre Bont. Qu'est-ce qu'elle représente exactement pour vous, cette chanson ?
Cette chanson, elle est emblématique d'une époque, hein, de ce qu'on a appelé l'exode rural. Ouais. Toutes les campagnes se vidaient au profit des banlieues et des villes. Et moi, ce qui me réjouit, c'est de voir qu'aujourd'hui, on assiste non seulement à un arrêt de l'hémorragie, un arrêt de l'exode rural, et au contraire, une inversion de la tendance. C'est-à-dire que c'est Paris qui perd des habitants maintenant, et le monde rural commence à inverser la courbe. Voilà.
Ça, c'est le début du passage à gauche de la chanson rurale.
Voilà.
Merci en tout cas d'avoir été là. Et je rappelle que vous venez de publier avec Céline Blanpin, Pierre Bont, Ces villages qu'on assassine.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
La montagne par Jean Ferrat, un choix de mon invité qui était donc ce matin Pierre Bont en compagnie de Denis Lefebvre et Jean-François Kahn. Et pour vraiment se quitter ici au Salon de l'Agriculture, on retrouve le duo David Venitucci à l'accordéon et Annick Cizaruc au chant qui vont interpréter pour nous une chanson extraite de leur dernier album, une chanson de Janowski intitulée « La diseuse de bonne aventure ».
Madame, madame, s'il vous plaît, vous pouvez me donner votre main? Non, la gauche, celle du cœur. Celle du cœur. Oh, je vois, oh non, ballonne, ne tombez pas, restez avec moi. Oh, je vois une amoureuse en vous. Oh, quelle amoureuse. Alors, vous allez rencontrer un homme riche, très riche, ici, au Salon International de l'Agriculture. Ah, bah oui, c'est vrai. Madame la diseuse d'aventure, dites-moi quelle âme m'ensorcelle. Dites-moi au fond si d'aventure je serai aimée de ce mortel. L'amour m'a pris comme une brûlure, comme une pouliche sur sa selle. L'amour m'a jeté sur sa monture et m'emportant cette terre cruelle. Ami, que la démence torture, n'allez point retrouver ce mortel. Je viens de consulter les augures. L'amour et la lune s'entremêlent, la lune et l'amour on se fissure. Dans vos mains les cartes se querellent, dans vos yeux teintés de clair obscur coule une lave rebelle. Madame la diseuse d'aventure, désenvoûtez-moi de ce mortel. Délivrez-moi, je vous en conjure. Mon cœur et mon âme se morcellent, mon corps et mes larmes se parjurent. N'entendez-vous pas dans la venelle le maître des nuits et ses voilures qui déjà m'emporte en sa nacelle. Chut, il arrive.
toi la nuit sous la lune obscure, à l'heure où les bêtes se rebellent, tresse un bouquet de sa chevelure et jette le tout dans la margelle. Jette son prénom dans un murmure, mandragorée langue de Babel, puis danse, danse sous la ramure, au son furieux d'une tarentelle.
Cette diseuse de bonne aventure, chantée par Annick Cizaruc avec David Venitucci à l'accordéon, s'achève cet épisode d'Étonnez-moi Benoît en direct du Salon de l'Agriculture avec à la technique Arthur Dumont et Tanguy Le Corneau, ainsi qu'Aurélien Prieto, Georges Thau, Benoît Chapon, Alain Pied, Dominique Allard, attaché de production Annie Comier, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec une émission spéciale sur les groupes vocaux français, Swingle, Singers et autres double 6. Mais pour l'instant, vous avez rendez-vous sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.